Le débat africain. Alain Foucault.
On les croise chaque jour et un peu partout dans la ville, sans presque plus les voir, tellement ils se sont fondus avec le temps dans le décor. Pourtant, ils sont des dizaines de milliers, avec chacun leur gamelle, à sillonner la ville de Dakar. On les rencontre, ou plutôt, ils nous sollicitent avec insistance dans les carrefours, dans les marchés, dans la circulation. On leur accorde à peine un regard. Les meilleurs jours, on leur donne une pièce de monnaie. Ils sont presque toujours sans chaussures, avec des vêtements en lambeaux. Ils ont été confiés par leurs parents à des Dahara pour apprendre le Coran. Chaque jour, ils doivent mendier dans les rues de la capitale sénégalaise pour apporter de l'argent à leur maître coranique. La pratique de la mendicité est-elle recommandée par l'islam ? Le mauvais traitement infligé à ces enfants répond-il aux préceptes de la religion ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Dakar au Sénégal. Émission consacrée aux dizaines de milliers d'enfants de talibés que l'on rencontre dans nos rues et dont le sort ne semble pas tellement nous préoccuper. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, monsieur Mamadou Wane, le porte-parole de la plateforme pour la protection et la promotion des droits humains, PPDH. Bonjour, monsieur Mamadou Wane.
Bonjour, Alain.
Deuxième invité sur le plateau, monsieur Niokobay Diouf, le directeur de la protection des droits de l'enfant au Sénégal. Bonjour, monsieur Niokobay.
Bonjour, monsieur Foucault.
Notre troisième invité est monsieur Serigne Medou Bousso Dieng, qui est maître coranique, coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses, ancien président du collectif des jeunes religieux du Sénégal. Bonjour, monsieur l'imam.
Bonjour, monsieur Foucault.
Dernier invité de ce plateau, monsieur Sadek Nias, le secrétaire général de la RADO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Bonjour, monsieur Sadek Nias.
Bonjour, Alain.
Voilà pour notre plateau de ce jour. J'ai envie de commencer cette émission en posant directement la question au maître coranique qui est en face de moi. Monsieur Serigne, est-ce que, très concrètement, la pratique de la mendicité est un précepte de la religion musulmane ? Est-elle nécessaire ? Est-elle indispensable ?
Non, ce n'est pas impératif, mais aussi ce n'est pas interdit. Mais ce qu'il faut savoir en est que les enfants qu'on voyait dans les rues ne sont pas en réalité des talibés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des élèves coraniques. Absolument pas.
Mais pourtant, c'est ce qu'on dit. Quand on les rencontre, ils disent qu'ils sont dans des écoles coraniques et qu'ils sont envoyés par leur maître coranique.
Malheureusement, c'est l'État à prendre sa responsabilité pour connaître exactement qui est élève coranique et ce qu'il n'est pas. En réalité, 80% des gens que vous voyez sont venant des pays environnants. Donc, de manière illégale. Avec accord de leurs parents, certains les exploitent en les envoyant dans les rues chaque jour qu'ils amènent ces 100 francs CFA. Vous voyez un enfant de 8h à 13h, de 14h presque à 19h. Donc ça ne peut aucunement être un élève coranique. Les élèves coraniques sont dans les daras. Certes, certains ont allé demander faire la mendicité, mais tôt le matin. Mais à partir de 8h...
Mais dans la plupart des enquêtes, je ne vous interromps pas, mais dans la plupart des enquêtes que l'on réalise, on se rend compte qu'ils sont envoyés par des maîtres coraniques, non, monsieur Wane?
Non, absolument. Parce que moi, je pense que toutes les enquêtes qui ont été réalisées depuis que moi, je suis à l'UNICEF hein, dans les années 90 et avant, montrent que la plupart de ces enfants-là viennent des écoles coraniques, mais en situation de mobilité, principalement.
Quand vous dites en situation de mobilité, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'ils viennent de l'intérieur. Vous parlez de Dakar. Mm-hmm. 90% des enfants qui manient à Dakar viennent des régions de l'intérieur et des pays limitrophes, mm-hmm. Les pays limitrophes du Sénégal.
Donc, comme le dit le maître coranique, ils ne sont pas vraiment dans des daras.
Moi, je dis que moi-même, j'ai mené une enquête en 2014 pour le compte de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Il y a 30 000 enfants qui manient quotidiennement à Dakar. Et venant tous d'écoles coraniques. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a fait exprès de faire la cartographie des écoles coraniques et 80, ces enfants qui m'ont dit viennent...
Essentiellement
des écoles coraniques. Mm-hmm. Mais ce n'est pas toutes les écoles coraniques, viennent mm-hmm. d'écoles coraniques. Mm-hmm. Donc, entre guillemets.
Alors, vous, vos enfants ne vont pas dans la rue, ils ne font pas de la mendicité, M. Dieng ?
Je conteste même ce chiffre. Il faut dire, avant de dire que c'est de l'école coranique, il faut reconnaître cette école comme une école coranique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il y a des gens qui ont eu leur maison, qui louent mensuellement, et en exploitant les enfants, c'est de faux maîtres coraniques en réalité. Parce que je dis...
Oui, mais on en a vu au Nigeria, hein, et pas qu'au Nigeria ces dernières semaines.
C'est partout dans l'Afrique. Mmh. En réalité, Une école coranique doit avoir un programme d'enseignement coranique quotidien, normalement. Mais vous ne pouvez pas envoyer les enfants de 8h à 14h, de 15h à 19h, en même temps dire que c'est une école coranique. Ça, c'est faux. Il y a plusieurs fausses écoles coraniques, plusieurs faux maîtres coraniques, des gens qui n'ont pas de boulot.
Qui viennent un peu ternir l'environnement.
L'image des maîtres coraniques en réalité.
Oui. J'ai envie de poser la question à M. Diouf. Pour vous, vous avez travaillé sur la question, c'est quoi la réalité?
Bon, la réalité, c'est que, comme il l'a dit, on peut ne pas les appeler écoles coraniques parce qu'ils ont l'apparence d'une école coranique. Ils s'habillent comme les enfants talibés. Certains viennent des daras, de supposés daras, mais en réalité, qui ne pratiquent pas les préceptes d'un dara. D'autres viennent des maisons. D'autres également sont en rupture familiale. Donc, il y a toutes ces catégories d'enfants. Même les enfants qui sont en rupture familiale, aujourd'hui, se comportent comme des enfants talibés parce qu'ils développent des stratégies de survie. Ils viennent manger pour pouvoir survivre.
Donc, pour vous, c'est exagéré lorsque l'on considère que ces enfants-là sortent des écoles coraniques. Là, on entendait à l'instant M. Wan qui disait, on amène une enquête dessus, une enquête sérieuse, et que 90% d'entre eux venaient des daras.
Mais justement, en réalité, ils s'établissent comme des écoles coraniques. On peut ne pas les appeler autrement que des écoles coraniques. Mmh. C'est des gens qui, avec un marabout, souvent même, ils apprennent. Mais le temps d'apprentissage est très faible par rapport au temps de manicité. Mmh. Il y a d'autres qui font manier les enfants de 5h du matin à 22h. Les enfants n'ont pas le temps ni de manger dans le dara parce qu'ils mangent dans la rue, ni d'être éduqué, ni d'apprendre.
Ah oui, parce que pendant qu'on a préparé cette émission, j'en ai rencontré 3 ou 4 qui étaient dans la rue depuis le matin et qui disaient la même chose. On est envoyé par le maître coranique.
Et là, si vous rentrez dans leur demeure, vous trouvez qu'il y a toutes les conditions réunies, tout l'équipement pour être une école coranique. Donc, c'est des gens qui se cachent derrière le format de l'école coranique, en tout cas pour exploiter les enfants. Donc, il y a des soubassements. D'autres sont de vraies écoles coraniques, mais il partit de la mendicité à des temps, comme l'a dit le marabout, à des temps bien déterminés. Mmh. Le matin, souvent de 7h à 10h, ils vont enseigner.
Mais quand même, jusque-là, ils vont faire de la mendicité. Or, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment ce que demande le Coran? Est-ce qu'on ne peut pas leur enseigner sans qu'ils aillent faire de la mendicité? Pourquoi ils vont chercher de l'argent absolument, tendre la main dans la rue, M. Niass?
Bien sûr qu'ils peuvent enseigner sans tendre la main, parce que tendre la main n'est même pas encouragé en islam, dans l'islam, par la religion. Et c'est même découragé. Donc, bon, j'adhère un peu à l'idée qui dit qu'il y a deux catégories d'enfants ici. Il y a les enfants victimes de traite. Moi, je les appelle des enfants victimes de traite. C'est maîtres, soi-disant maîtres coraniques, qui viennent, en tout cas, de l'intérieur du pays ou bien de pays limitrophes, s'établir à Dakar avec leurs élèves. Parce que la plupart des élèves même ne sont pas du quartier. Souvent, j'en ai chez moi, j'ai deux types d'écoles. Je peux vous dire les deux types d'écoles. Une école coranique qui chaque année fait une évaluation devant les quartiers, les notables, tout le monde contrôle un peu le niveau des élèves. Et l'autre école qui vient s'établir dans des maisons abandonnées ou bien des maisons en finition, qui
en fait, des écoles sauvages, en gros.
Voilà, sauvages et transhumants, qui viennent d'ailleurs. Le maître coranique, comme les élèves, viennent d'ailleurs. On ne les connaît même pas dans le milieu. Et ils utilisent les enfants qui doivent donner des sommes quotidiennes d'argent à ce maître coranique, qui n'utilise même pas l'argent pour les nourrir. Ça aussi, c'est un prétexte fallacieux. Parce que les enfants que j'ai chez moi, dans mon quartier, ils mendient pour manger. Tous les soirs, ils mendient pour manger.
Le but de la mendicité, c'est quoi, très concrètement? Est-ce que ça a une symbolique dans la religion musulmane, ou c'est pour pouvoir subvenir aux besoins du maître coranique ou des enfants, Monsieur Wan?
Non, moi je pense qu'il n'y a pas de symbolique dans la religion musulmane de faire manger les enfants. Parce que le Sénégal n'est pas le seul pays musulman au monde. Il y a beaucoup de pays musulmans. La pratique de la mendicité, on ne voit ça qu'ici et dans certains pays, etc.
Oui, il y en a quelques-uns quand même, au Nigeria.
Ça existe. Au Nigeria, je veux dire que en Indonésie, là où il y a la plus forte population de musulmans, il n'y a pas ça. En Turquie, il n'y a pas ça. En Arabie Saoudite, il n'y a pas ça. Il y a d'autres pays africains musulmans, il n'y a pas ça. Même au Sénégal, c'est pas tous les daras qui pratiquent la mendicité. Je veux dire. Donc, pour moi, ces enfants, je le dis et je mets quiconque au défi, 80% des enfants qui mendient dans toutes les villes du Sénégal proviennent, si vous voulez, d'école coranique, entre guillemets. Mm-hmm. Parce que bon, c'est pas ça le prototype de l'école coranique. Je peux lui faire cette concession. Mm-hmm. Mais dans la réalité, ce qu'on voit, c'est des maîtres coraniques qui sont venus de l'intérieur du pays pour diverses raisons.
Et qu'on a mais vu qui font de la traite des enfants.
Et qui demandent aux enfants de rapporter de l'argent. Il y a le facteur économique qui est un indicateur d'exploitation.
Oui, ça, on ne peut pas le nier. On en a vu un qui nous a dit qu'il doit ramener 250 francs par jour à son maître coranique.
Absolument. Mm-hmm. Je veux dire que nulle part, nous, on a fait des recherches aussi sur la question de la mendicité et l'islam. Tous les grands intellectuels, islamologues et tout, ont démontré que ça n'a aucun lien avec l'islam.
Mais c'est venu d'où alors ?
Dans la réalité, c'est des pratiques qui sont venues originellement, il faut le dire, parce que les sociétés avant l'islam, il n'y avait pas cette mendicité au Sénégal. Mais dans une certaine mesure, au début, c'était une pratique pédagogique, les premières écoles coraniques. Mm-hmm. Et c'était contrôlable, c'était dans les villages.
C'est-à-dire qu'on leur apprenait,
moi, je viens de
on leur apprenait l'humilité, on leur apprenait quoi exactement ?
Exactement, on leur apprenait l'humilité. Mm-hmm. Et c'était l'islam, moi je viens du Nord. Et moi,
du Sénégal.
Là, du Sénégal. Là où je viens, c'est le berceau de l'islam ici.
C'est-à-dire
la région de Saint-Louis, le Fouta, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Là où il y a eu la révolution des États théocratiques. Mm-hmm. Mais jamais de la vie, on a institué la mendicité. Mais à un moment donné, c'était une pratique pédagogique de socialisation dans un contexte de société pré-islamique où l'éducation de l'enfant était haute. Donc pour l'islamisation, mm-hmm. il fallait ces écoles qui ont joué un très grand rôle historique dans l'islamisation, mm-hmm. mais leur projet, ce n'était pas le projet de mendicité à des fins d'exploitation.
À des fins d'exploitation. Monsieur Dieng.
C'est que le danger, Annick, le fait que l'État lui-même et les gens qui parlent, la majorité des gens qui parlent, ne peuvent pas distinguer vraie école coranique et...
On va venir à la question de l'école coranique, mais voilà la symbolique de la mendicité, Monsieur Wandi, elle n'existe pas dans la religion musulmane.
Ça existe partout dans le monde de la mendicité, y compris Arabie Saoudite, d'ailleurs que j'ai vu plusieurs mendiants. Ça existe partout.
Non, mais c'est pas des maîtres coraniques qui envoient des gens.
Ce n'est pas les maîtres coraniques.
Les enfants aller faire la mendicité.
Ce n'est pas de mendicité, de la pauvreté, etc.
Mendicité, c'est à part. Oui. Mendicité des enfants, c'est un autre part. Ça veut dire que il faut atteindre certains degrés de pauvreté avant que la mendicité soit légalisée, en fait. Parce qu'il y a des versets coraniques, certainement, qui autorisent la mendicité. Ce n'est pas interdit, hein, formellement, comme vous le présentez.
Mais ce n'est pas recommandé. Non. Un peu comme l'histoire de la polygamie, non ?
Non, si pourtant...
La mendicité des enfants.
Si pourtant...
Des enfants, bien sûr.
Si pourtant, des enfants. Je voudrais dire que la mendicité des enfants, c'est un cas particulier qui n'est pas souhaitable. Parce que, je dis, aujourd'hui, on a dépassé plus de 1 million et quelques enfants. Et parmi moins de 1000 et quelques qui ont des talibés mendiants, donc de manière normale. Tout ce qui reste, ce sont des enfants venant de la Guinée-Bissau, certains même venant à l'intérieur du pays, organisés. Parce que avant que vous ayez une école coranique, il faut avoir d'abord l'objectif d'enseigner. Mais les soi-disant maîtres coraniques qui sont ici aujourd'hui n'ont pas d'abord l'objectif d'enseigner le Coran. Ils sont objectifs comme chercher l'argent, exploiter les enfants, c'est à l'État de l'organiser et de pouvoir distinguer le vrai et le faux. Malheureusement, ce qui n'est pas encore fait.
On va arriver à ça. Mais vous, dans votre école, est-ce que vous envoyez les enfants dans la rue pour faire de la mendicité ?
Non.
Et dans quel but ?
Non. Il y a des écoles qui envoient, peu d'écoles, c'est moins de 5% aujourd'hui dans ce pays, qui envoient leurs enfants par manque de moyens. Ça, c'est légal et ça, c'est normal. Par manque de moyens, oui, effectivement. Mmh. Parce que quand vous sortez de Dakar, il y a des écoles coraniques qui n'ont absolument rien. Les parents envoient leurs enfants sans apporter moindre chose. Et dans ces circonstances, il faut que le marabout envoie les enfants aller demander quelque chose à manger. C'est normal. Il n'y a plus normal que cela dans le monde. Mmh. Alors, ce qui reste, c'est des faux marabouts qui ont d'autres objectifs qu'enseigner le Coran. Ça n'a pas engagé...
On va parler de ces différents marabouts puisqu'on légifère sur la question. Mmh. Mais là, vous répondez à ma question en disant « ça existe en islam ». Monsieur Diouf, ça existe en islam d'aller faire la mendicité des enfants. On a envie de dire « et les parents ?» parce que à chaque fois, on se retourne toujours vers les maîtres coraniques, mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi des parents continuent d'envoyer leurs enfants là-bas en sachant qu'on va les envoyer dans la rue.
Non, je pense que c'est du fait des parents qui sont irresponsables et qui veulent suivre, vraiment qui veulent fuir leurs responsabilités. La réalité est que la mendicité, dès que cela se pratique dans ses formes, vraiment s'apparente à de l'exploitation qui ne dit pas son nom, et même à de la traite quand...
C'est de la traite.
Quand ça dépasse les frontières. Donc, nulle part, je ne vois où l'enfant devrait manger pour faire vivre des adultes. Je ne vois nulle part où l'enfant devrait manger même pour se prendre en charge. L'achat de l'enfant...
Mais là, M. Dieng parle de pauvreté extrême de certains daras qui obligent le maître coranique à dire « Allez chercher votre pitance ».
Mais cela ne saurait se justifier. L'enfant n'a pas à jouer ce rôle. D'autant plus que c'est un rôle qui porte préjudice même à l'enseignement de l'enfant parce qu'il n'a pas le temps d'apprendre. Il est exposé à des violences dans la rue, n'est-ce pas? Il est exposé à toutes sortes de dangers. Et cela ne concourt pas au respect vraiment de ses droits fondamentaux qui sont d'être protégés dans un environnement sain. La rue n'éduque pas l'enfant.
Mais alors, peut-être qu'il faudrait d'abord, M. Nias, s'adresser aux parents. Parce que c'est bien les parents. Les maîtres coraniques ne vont pas les chercher au lasso à la maison pour les amener dans leur dara. Ce sont les parents qui les amènent.
Ce sont les parents. Il y a la responsabilité d'abord des parents. Mais aussi, il faut noter que dans ce business... Parce que c'est un business, c'est la traite. L'année dernière, l'ONDC a estimé à 5 milliards la manne financière qui
5 milliards de francs CFA.
Voilà, de la mendicité des enfants. Hein? C'est vrai ou faux, mais ça va avoisiner un peu ça. De toute façon, il y a même des parents qui sont intéressés par la traite. Ce que vous ne
savez
pas. Des
ça.
Parents qui envoient leur enfant moyennant un retour.
Sans blague.
Ça existe.
C'est sérieux?
C'est sérieux.
C'est sérieux, monsieur Dieng?
Ah oui, qui ne sont pas talibés.
Moi, retour de la part du maître, je ne peux pas les appeler maître coranique, parce que comme lui.
C'est-à-dire, ils livrent son enfant à la traite.
Non, ils louent leur enfant.
Ils louent leur enfant.
Il y en a qui louent leur enfant, moyennant quelque chose chaque année. Ça existe. En plus, maintenant, il y a l'irresponsabilité d'autres parents qui veulent se débarrasser un peu de leur progéniture parce qu'ils ne peuvent pas savoir pas ce qu'ils en font. Parce qu'ici, on est en Afrique aussi, au Sénégal, on fait beaucoup d'enfants sans prendre la responsabilité de savoir où les mettre.
Mais ce que vous dites est quand même grave.
C'est très grave. C'est très grave. C'est pour ça que je voulais que, effectivement, comme il l'a dit, l'État prenne sa responsabilité.
Ce que dit M. Dieng, on va parler de ça dans la seconde partie.
On peut arrêter ce fléau d'abord avant de s'occuper des vrais dames. Des vrais maîtres coraniques, des vraies écoles coraniques.
S'occuper d'abord d'éduquer les parents ou bien.
Il faut élaguer.
Mais il y a plus grave encore.
Il faut élaguer.
Monsieur Diouf.
Il y a plus grave encore. Des femmes, des familles qui louent leurs enfants à d'autres femmes.
Bien sûr.
Des enfants de très bas âge qui sont devant les feux rouges, supposés être des jumeaux ou des jumelles, qui ne le sont pas en réalité. Les femmes se lèvent le matin pour aller dans les maisons, louer des enfants et le soir donner une rétribution. Aux parents de ces enfants-là.
Sérieusement?
Oui. Mais cela se fait. Sinon, pour étayer un peu ce qu'il a dit, il y a des parents qui sont installés dans les villages qui, chaque mois, reçoivent en nature une partie des denrées que l'enfant est censé récupérer de l'aumône.
Donc, en fait, on a esclavagisé les enfants.
Oui, mais il y a cette relation. Mais moi, je pense qu'aussi, il faut dire la vérité. Hein. La masse critique des enfants qui mendient dans la rue, c'est pas seulement, je suis d'accord avec vous, c'est pas ces enfants...
Des daras?
Non, c'est pas des enfants qui sont venus mendier avec leur famille, il y en a, ou bien, etc. Mais la forme la plus massive, je le dis encore... Et j'insiste là-dessus parce que si on ne fait pas un bon diagnostic, il n'y a pas de solution. Tu vois, c'est des enfants qui ont été confiés en grande partie pour aller étudier le Coran et qu'on a détourné pour justement les
pour faire de l'argent pour du business.
Exploiter leur mendicité. C'est ça la réalité. Mais maintenant, moi je pense aussi, il faut le dire, l'enseignement coranique est le premier enseignement ici dans nos sociétés avant l'arrivée des de la colonisation. Et quand la colonisation est arrivée, ils nous ont imposé un autre système d'éducation.
On va en parler dans la seconde partie, parce que puisqu'on a posé le diagnostic, on va essayer de trouver des pistes, des solutions. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
Ces derniers temps, à la faveur de l'actualité tragique mise au grand jour par la police dans quelques écoles coraniques du Nigeria, ils sont devenus d'un coup un peu plus visibles. Les mauvais traitements, la violence mise à jour par ces cas sont venus relancer le débat sur ces jeunes talibés qui chaque jour écument les rues du Sénégal pratiquant la mendicité pour le compte de leur maître coranique. La mendicité et le mauvais traitement sont-ils des exigences de l'islam ? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Dakar au Sénégal avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord Monsieur Mamadou Wane, le porte-parole de la plateforme pour la protection et la promotion des droits humains, PPDH. Deuxième invité sur ce plateau, Monsieur Niokoba Ndiouf, le directeur de la protection des droits de l'enfant au Sénégal. Notre troisième invité est Monsieur Serigne Medou Boussou Dieng, qui est maître coranique, coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses, ancien président du collectif des jeunes religieux du Sénégal. Dernier invité, pas des moindres, M. Sadik Nias, le secrétaire général de la RADO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Alors nous avons terminé la première partie en ayant dressé un peu le diagnostic, en disant il n'y a pas que les enfants des Dara dans la rue, mais il y a aussi beaucoup d'enfants des Dara. Vous étiez en train de faire une réflexion sur l'éducation qui est l'une des causes. Non. Dans cette seconde partie, on va surtout mettre l'accent sur quelles sont les solutions pour en sortir. Mais allez-y.
Oui. Si vous permettez, avant de migrer vers la deuxième partie, je voudrais dire que ce que nous on décrit et qu'on dénonce, c'est le fait d'exiger à des enfants qui rapportent de l'argent. Et s'ils ne rapportent pas de l'argent, ils sont battus. Et c'est deux phénomènes qui sont liés, la maltraitance et l'exploitation. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire tout simplement « ils mendient ». Mais ils mendient parce qu'on les a forcés à mendier. Ils mendient parce qu'on leur demande de rapporter de l'argent.
Et puis dans pas mal de ces daras-là, on a vu que les enfants étaient mal nutris, mal nourris, battus, enchaînés.
S'ils ne rapportent pas de l'argent, il y a de la maltraitance. C'est ça le fond du problème. C'est pourquoi nous sommes là. Oui. Donc maintenant, pour revenir à mon avis aux solutions, moi je ne peux parler que du côté la société civile et en tant que citoyen sénégalais tout simplement. Cette situation, quelle que soit, qu'ils viennent des Dara, qu'ils ne viennent pas des Dara. Le Sénégal connaît un phénomène avec énormément d'enfants, une masse critique d'enfants dans la rue, qui se trouvent dans des situations de violation des droits.
Des droits humains.
Des droits simples, de dignité. Mm-hmm. Je ne parle même pas de machin, parce que même notre culture africaine, on ne doit pas accepter ça. Mm-hmm. Moi, en tant que musulman, je n'accepte pas ça. Mm-hmm. Donc pour moi, aujourd'hui, la solution, c'est d'abord, contrôler.
Légiférer peut-être dessus, non ? Est-ce que c'est pas le moment pour les pouvoirs publics de faire enfin ces textes que l'on attend depuis longtemps et dont on parle tout le temps dans ce pays ?
Il y a déjà des textes, lui, il va en parler.
Oui. Il y a déjà la loi sur la modernisation des Dara qui est déposée au niveau du Conseil des ministres, qui l'a déjà validée, et aujourd'hui qui est en cours au niveau de l'Assemblée nationale pour son adoption. Bon, il se trouve que l'environnement juridique...
Que dit le texte avant qu'on passe à la suite ?
C'est les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement des Dara, les régimes de subvention qui sont applicables, les curriculums et tout cela. Donc le modèle de Dara tel que cela doit se présenter pour pouvoir en tout cas être pris en charge par l'État en termes budgétaires également dans le cadre programmatique. Il se trouve que pour ce qui concerne la gestion des Dara aujourd'hui, nous devons aller, comme l'a ainsi M. le Président de la République récemment, à travers des directives. Nous avons déjà une feuille de route sur une série de concertations. D'abord, on a fait avec la Fédération nationale des écoles, des associations d'écoles coraniques du Sénégal, qui sont engagées à accompagner l'État et à apporter des solutions. La première, c'est d'abord, comme l'a dit tout à l'heure de Siri, comme il l'a suggéré, d'identifier ceux qui sont de véritables Dara et ceux qui ne sont pas. Les déloger, les supprimer.
Mais qui doit les identifier, puisque il n'y a pas un clergé comme dans d'autres religions.
Nous avons identifié aujourd'hui, nous avons un cadre de coordination et de suivi qui regroupe le ministère de la Famille, en charge de l'enfant, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, le ministère du Développement communautaire, etc., le ministère de la Communication. Maintenant, c'est ce cadre-là qui a discuté avec la Fédération nationale. Ils se sont engagés à accompagner l'État avec la brigade des mineurs, pour descendre sur le terrain. Eux-mêmes, ils vont nous aider à identifier.
Mais qu'est-ce qui empêche que ça se fasse, puisque quand même...
Nous avons une feuille de route. Nous avons une feuille de route. On a des dates bien précises pour cela.
Pour faire une descente dans l'ensemble du territoire.
C'est un peu lent quand même.
Oui, mais il faut réfléchir, parce qu'aussi, on ne doit pas se précipiter comme les autres fois. Le président donne une directive, on se jette dans la rue, sans avoir une stratégie concertée est vraiment bien étudié, bien planifié. Monsieur aujourd'hui, Dien, on est dans cela.
C'est que ce que je conteste toujours, c'est que la majorité des enfants dans la rue ne sont pas des sortants des LARA. C'est ça qu'il faut savoir. Toute autre enquête est fausse. Mm-hmm. Si l'État faisait une enquête exhaustive, tu sauras que 90% de ces enfants ne sont pas sortis des écoles coraniques. Pour avoir une école coranique, il faut d'abord avoir l'objectif d'enseigner. Mais tous ces gens-là qui envoient les enfants dans la rue, ils ont l'objectif de chercher l'argent.
Oui, mais est-ce que cette solution qu'évoquait à l'instant M. Diouf, qui a été débattue au Parlement, est-ce que ça ne permet pas déjà d'élaguer dans ce sens-là, les mauvais dara, les dara qui sont pour la maltraitance des enfants?
Non, ce n'est pas encore au Parlement. Ça a été adopté en Conseil des ministres.
Ça a été adopté en Conseil des ministres.
Ce qui est sûr, c'est que nous allons vers les opérations de retrait des enfants de la rue.
C'est que l'heure de l'État en est qu'il vient un bon jour imposer quelqu'un qui ne sait pas en réalité ce qui est le problème des dara, c'est qu'il n'est pas parmi nous d'abord, il n'est pas un sortant.
Mais en même temps, c'est déjà douter, suspecter l'État de vouloir faire quelque chose, on n'en est pas encore là. Est-ce que le principe vous va? Le fait que l'on décide enfin d'y mettre un peu d'ordre, ou tout simplement d'empêcher d'envoyer les enfants dans la rue?
Mais c'est ça la volonté de tout le monde. Mais il faut qu'il y ait coopération et la communication. Parce que l'État ne peut pas un bon jour nommer quelqu'un qui est inconnu dans le monde.
Mais il ne l'a pas encore fait. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il va le faire, l'État?
Non, si. L'État avait nommé quelqu'un pour récupération des enfants dans la rue. Mais pour récupérer les enfants dans la rue, il faut qu'il y ait un discernement, une coopération, une communication entre tout le monde. Et en ce moment, tout le monde va participer exactement à l'éradication de cette fléau.
Franchement, je ne veux pas polémiquer.
Comment on peut nommer quelqu'un pour récupérer les enfants de la rue?
Monsieur Nias, si vous me laissez terminer, je vous explique. Aujourd'hui, les opérations de retrait, la démarche n'a pas été, en tout cas jusque-là, en tout cas, faire de manière puisse avoir des résultats.
De manière efficiente.
Voilà, efficiente. Pour moi, il faut d'abord passer par l'étape de vote de cette loi-là. La loi sur le statut des dara, pour pouvoir normer un peu l'ouverture, régulariser un peu les cursus, etc. Mais également inciter les dara, les vrais dara, je veux dire, à travers des subventions, etc. Maintenant,
les soutenir, les accompagner.
Les soutenir et les accompagner. Accompagner ça aussi d'un retrait qui implique également et qui responsabilise les communautés. Il faut impliquer les communautés.
Tout à fait.
Parce qu'il faut. Il y a un pays voisin qui avait procédé à ça. Et comment ils ont fait? Ils ont fait le contraire du Sénégal. Le Sénégal, quand ils ont retiré les enfants, ils les ont confiés à des maîtres coraniques, donné un peu d'appui. Alors que c'est un trafiquant d'enfants. Vous l'appuyez en plus. Alors, il fallait aller jusqu'au niveau des familles pour leur dire, mais pourquoi, si c'est à Kolda ou bien à la frontière, qu'on accompagne l'enfant et le maître coranique jusque là-bas, parce qu'ils ne sont pas de Dakar, ils sont de ce coin-là, on va là-bas pour interroger, demander aux parents de retenir leurs enfants. D'expliquer pourquoi ils ont laissé faire les enfants.
Nous l'avons fait, on
sanctionne.
Et nous le faisons tous les jours.
Mais
tous les mois, on a des retours d'enfants à travers les préfets des départements qui sont les présidents des comités départementaux de protection de l'enfant. Jusqu'au niveau des villages, on a des comités de villageois.
Mais les gens ne sont pas sanctionnés.
Non, on n'est pas là.
Il faut les sanctionner.
Moi, je réponds à la question. Aujourd'hui.
Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est tout simplement, même ce projet de loi a été discuté avec toutes les associations de maîtres.
Laissez-moi
terminer. Pour moi, chacun est libre d'avoir, après vous aurez la parole, mais moi, je sais, lui, il est là. Il y a eu des concertations, la radio a fait des facilitations. On est allé, l'État a rencontré des chefs religieux, etc. Bon, moi je pense que ce projet-là de loi, en tout cas nous on le soutient parce qu'il donne pour la première fois dans l'histoire du Sénégal un statut au dara. Deuxièmement, il y a une loi relatif à la lutte contre la traite, c'est la loi de 2005. Et je pense qu'aussi, l'État n'est pas là à attendre. Et on ne peut pas faire des concertations à l'infini alors que la souffrance des enfants, c'est au quotidien. Moi, je refuse tous les processus politiques. On dit, oui, on va attendre. Pendant ce temps, les enfants sont dans la rue, qui viennent des darons ou pas, c'est des enfants. Ils souffrent. Il y a des prédateurs sexuels, il y a des abuseurs, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a une urgence. Quand on légifère au nom de l'intérêt général. quand ceux qui se sont battus contre l'abolition de l'esclavage, c'était une minorité qui s'était battue pour l'abolition de l'esclavage. On n'attend pas que tout le monde soit d'accord. On voit l'intérêt supérieur de l'enfant. Le Sénégal a ratifié tous les traités internationaux. Et il ne faut pas qu'on vienne nous dire que le Sénégal n'est pas un pays isolé. Le Sénégal fait partie de la communauté nationale, dans la constitution également, dans notre religion, dans notre culture. La sauvegarde de l'enfant est une priorité. On ne doit pas.
C'est sacré. Monsieur Dieng, je ne vous voyais pas d'accord sur la question.
Oui. Non, c'est que simplement, je voudrais démentir que l'État a regroupé l'ensemble des secteurs. Ce n'est pas exact. Je voudrais citer une dizaine de rabbiteurs régionales qui ne sont pas rabbiteurs. C'est des fédérations locales hein, qui ne sont pas impliquées. Donc, si on me dit un bon que l'État a fait de tout le monde, mais je me dis qu'il en faut. Moi, je suis un maître chronique.
Mais est-ce que ce que dit M. Wan n'est pas réel, qu'il faut aller vite et qu'on ne peut pas...
Nous sommes d'accord. Ce n'est pas ça le problème. Le problème en est que il faut, avant qu'on propose une loi, il faut qu'il y ait une enquête d'abord exhaustive impliquant tout le monde pour que les vrais Serigne Daré puissent dénoncer ce qu'ils ne sont pas en réalité des vrais Serigne Daré. Ça, ce n'est pas
fait. Il faut préciser que les Serigne Daré, c'est les écoles.
Voilà, c'est les écoles coraniques, c'est ça que je voudrais dire. En réalité, il faut d'abord qu'il y ait une enquête exhaustive impliquant tout le monde, tous les problèmes, toutes les solutions, et en ce moment, on peut
projeter une loi. Oui, mais ça prend beaucoup de temps, et pendant ce temps, les enfants sont malmenés, sont abusés.
Moi, ce que je voulais préciser, c'est que... Quand l'État s'engage directement, on dit que l'État n'a impliqué personne. Et quand l'État commence à impliquer les gens, on dit que c'est lent. Mais pour impliquer tout le monde, ça demande du temps. Et aujourd'hui, nous avons une feuille de route. Cette feuille de route doit nous conduire d'abord par l'identification, ensuite la rencontre avec les différentes forces, avec la Fédération nationale des agents d'école coranique. Ils vont faire des propositions sous deux formes. Les Daré qui pratiquent la mendicité et les autres qui ne pratiquent pas la mendicité. Si l'on sort de cela, on va rencontrer toutes les institutions de la République, au Conseil, l'Assemblée nationale et le Conseil économique et environnemental. Après, il y aura les familles religieuses. Nous avons déjà rencontré les partenaires et financiers et les organisations de la société civile.
Mais tout là, ça fait beaucoup de rencontres pendant
non,
ce
non,
temps.
Non, mais justement, parce
quand
que
on entend ça, on n'a pas
que,
fini avant.
Parce que parce que les gens pensent qu'ils ne sont pas impliqués. Quand vous le faites seul, on dit que vous n'êtes pas impliqué.
Oui, mais dans le même temps, comme le disait à l'instant M. Wan,
si on doit impliquer tout le monde, il faut savoir
se consulter pendant ce temps. On peut consulter pendant qu'on a arrêté, par exemple, des textes. Est-ce que ce n'était pas plus simple de dire voilà, on interdit tout simplement la mendicité des enfants sur la route? Est-ce que ça ne résoudrait pas le problème tout de suite?
La mendicité, excuse-moi.
Non, non, ça allait résoudre au moins une bonne partie du problème. Parce que tous ces enfants qui mendient à Dakar, je dis, sont des victimes de quelque part de la traite. Parce que les vraies écoles coraniques qui font mendier les enfants parce qu'ils sont pauvres, sont établis dans leur propre milieu. Un sociologue disait qu'il y a deux formes de Dara. Et le deuxième Dara qui pose problème, c'est l'école coranique ou Dara, entre guillemets, qui échappe à tout contrôle. Le contrôle communautaire, contrôle de l'État, contrôle des parents. Même les parents ne savent pas où est établi ce Dara parce que moi, le quartier, dans mon quartier, le Dara qui est là-bas, il a squatté juste une maison
abandonnée.
Donc ces parents-là ne savent pas où se trouvent leurs enfants. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas contrôler. Nous qui habitons le quartier, on n'a pas d'enfants là-bas. On ne connaît même pas d'où viennent ces enfants. Donc il faut arrêter ce phénomène à Dakar d'importation d'enfants, de maîtres coraniques.
Mais comment on arrête ça? Puisque ce n'est pas autorisé,
c'est déjà dans
les formes.
Il faut faire le retrait directement. En retirant aussi, il faut situer les responsabilités.
Mais il faut peut-être des sanctions. Si on parle tout le temps sans sanctions, peut-être que ça ne fait pas peur.
Non, mais l'État,
ça ne servira absolument rien de précipiter à une loi qui ne reflète pas le choix du peuple. Oui. Je pense qu'il faut que la loi.
Mais qui est le peuple? Qui est le peuple?
C'est nous, c'est nous tous.
Non,
c'est tout le monde.
Le peuple.
Mais c'est tout le monde. Je termine, s'il vous plaît.
Oui, oui.
Je termine, s'il vous plaît.
Excusez-moi.
Je voudrais qu'il y ait une concertation. C'est nécessaire. S'il le faut, la loi ne sera pas respectée et puis il y aura des arrestations partout et il y aura un conflit social qu'il faut éviter dès maintenant. Une loi doit être générale en respectant le choix du peuple, reflète le choix du peuple. En réalité, il faut une large concertation, rapidement, ça peut se faire même dans un mois, pourquoi pas, dans une délai précise, qu'on concerte avec tout le monde, et en ce moment, on peut élaborer une loi qui sera respectée, qui sera très bien vue par tout le monde.
Il y a deux types de lois.
Mais je voudrais revenir là-dessus. Je pense que dans ce pays, il y a quand même la loi, il y a la législation. Depuis 1964, il y a un décret qui interdit la mendicité avec des circonstances aggravantes quand il s'agit de l'enfant. Dans le code pénal, il y a une disposition, l'article 245, qui est interdit. Alors, ça ne vise pas les daras, ça ne vise pas les enfants venant des écoles coraniques. Ça vise tout exploiteur d'enfants. Et ensuite, le législateur, à l'époque, avait aménagé la loi pour comprendre que quand même, il y a des jours, par exemple le vendredi devant les mosquées, etc., pour tolérer ça. Ensuite, il y a une évolution. Et aujourd'hui, la question, le législateur l'aborde sous l'angle de la traite de personnes. La traite de personnes, on ne négocie pas avec la traite de personnes. Nous, on n'accepte pas que les enfants sénégalais, que ce soit personne n'a le monopole, ni de l'islam, ni du cœur. Ce qu'on demande, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le processus qui est mis en place, de tenir compte qu'il y a une urgence. Il y a des dizaines de milliers d'enfants qui souffrent quotidiennement. C'est une société où on demande à des enfants de rapporter de l'argent. Chaque jour, 500
c'est grave. C'est grave. Alors, là, je me tourne vers le maître coranique, monsieur Dieng. Est-ce que l'autre moyen de sensibiliser n'est pas au sein même des mosquées? Est-ce que vous qui avez autour de vous des fidèles n'avez pas un travail pédagogique à faire auprès des parents qui ainsi confient leurs enfants? Je ne parle pas simplement de Dakar, puisque vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup à Dakar, mais il y en a quand même. Mm-hmm. Et peut-être qu'en prêchant à Dakar, mm-hmm. ceux qui sont à l'intérieur comprendraient.
C'est la raison pour laquelle j'exige une collaboration parfaite entre les acteurs et l'État. C'est ça qui manque. Si ça a été le cas, aujourd'hui, nous aurions trouvé
une solution. Mais en attendant cette collaboration, vous pouvez jouer votre partition. Ça ne vous arrange pas de voir ces enfants-là dans la rue?
Non, personne ne souhaite pas cela. Mais le problème en est que c'est l'État qui monopolise toutes les forces. Il faut que l'État organise. C'est une obligation de l'État d'organiser ce secteur en tant qu'État. Parce que l'État, c'est tout le monde. Mais mon souci, c'est que ce monsieur a dit que depuis 1964, il y a une loi, monsieur Wan, que je respecte trop bien, que je respecte bien par rapport à ses bienfaits. Mais en réalité, si ça sera encore une loi qui n'est pas discutée, qui n'est pas concertée...
Non, le problème, c'est la longueur de la discussion de la loi.
Oui, c'est bon, ça qu'il faut savoir ce que l'on veut. Hein. Les gens disent qu'il faut y aller très vite, les autres disent qu'il faut impliquer tout le monde. Si on doit impliquer tout le monde, ça va prendre du temps. Mais si on se limite au principe, rien ne saurait justifier la présence des enfants dans la rue, dans les formes où cela se pratique. C'est une forme de traite, c'est une forme d'exploitation par la mendicité, c'est une forme de violence qui ne dit pas son nom. Et donc, si on se limite à ça seulement...
Si on parle de ce principe, on n'aurait même pas besoin de créer une loi.
On n'aurait même pas besoin de créer une loi. Si on se limite à cela, que l'enfant doit être protégé, sa place n'est pas dans la rue, l'enfant doit être dans un environnement sécur, je pense que... Maintenant, la loi...
Mais quand vous dites ça, il y a un certain nombre de personnes qui vous disent, ce sont ceux qui sont anti qui disent ça, et que dans ces daras-là, il n'y a pas d'argent pour nourrir ces enfants qu'on leur envoie.
Bien sûr.
Non, c'est que justement, les gens qui ouvrent ces daras, ils le font de manière volontaire. Il y a d'autres daras, en plus grand nombre, qui sont des daras internes, des daras, en tout cas, où si vous amenez votre enfant, vous payez. Maintenant, si vous pensez que le parent n'a pas à payer, parce que simplement, vous tirez profit
de l'enfant,
vous n'avez même pas besoin de forcer le parent à amener quelque chose. Il y a un soubassement.
Malheureusement.
Hein? L'argent public, là où va l'argent public, il faut qu'il y ait le contrôle de l'État. Moi, je suis pour l'intervention de l'État. L'État est responsable de l'éducation des enfants. Mais je suis d'accord, il faut concerter avec tous les acteurs.
Oui. Moi, j'ai jamais... Il faut une concertation. Non. Malheureusement, le temps tourne vite. Nous arrivons au terme de cette émission. Que l'on retient, c'est qu'il faut une large concertation, mais il faut aller vite.
Agir vite.
Et puis, il faut aller aussi sur le principe même que l'enfant ne doit pas être sur la route, puisque comme vous le disiez, M. Wan, il y a une loi de 1964, un article qui dit clairement qu'il faut empêcher...
Le décret. Et il y a la loi de 2005 qui protège les enfants contre l'exploitation de leur mendicité.
Alors peut-être qu'on devrait agir dans ce sens-là. En tout cas, on espère que les parents prendront conscience de cela et n'enverront pas toujours leurs enfants dans les daras sans avoir vérifié. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Le temps tourne vite. On reviendra. C'est un débat vaste. On arrive au terme de cette émission. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. La marche